Bienvenue dans l'équipe podcast.
Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, on va parler de quoi?
Aujourd'hui, on va vous parler de la communication entre les chevaux. On parle bien de celle qu'ils font entre eux et pas de la communication entre un cheval et un humain. La communication, elle est hyper importante vu qu'ils sont faits pour vivre en groupe, en communauté. Et s'il n'y avait pas de communication, ils ne pourraient pas vivre tous ensemble, tout simplement comme nous. D'ailleurs, ce qui nous manque cruellement, c'est la communication.
Oui, ça c'est vrai que ça nous manque. Hein. Malgré tous les moyens de communication qu'on a, parfois la communication entre humains, elle est difficile.
On n'a jamais aussi mal communiqué que maintenant.
Ouais, c'est dingue.
Pour s'assurer que la transmission de leur message soit complète, ils vont utiliser plusieurs moyens de communication différents. Le premier, Lydia, si tu veux nous en parler, comme ça on démarre tout de suite.
Alors, c'est la communication olfactive, donc c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'odorat. S'ils se connaissent ou pas, la première chose qu'ils vont faire, c'est se mettre nez à nez. Donc ils vont faire néné, comme on dit, hein, par chez nous. Je ne sais pas si chez vous on dit ça aussi. Ils font néné. C'est le comportement naso-nasal. Alors, le cheval va émettre son odeur et l'autre, il va essayer de reconnaître l'odeur de celui qui a émis l'odeur. Donc ils dilatent les naseaux, ils soufflent avec les oreilles bien en avant. L'autre qui reçoit, les oreilles sont légèrement tournées vers l'arrière et puis va se concentrer pour ce qui se passe dans son corps. Quand ils sont en liberté, ça se passe bien, voilà. Après, il y a parfois une mise en place de hiérarchie qui se fait, mais quand l'humain est juste à côté, parfois ça arrive, hein, les chevaux, on veut les présenter, chaque humain tient son cheval, et puis les chevaux font néné. Et puis, ben, parfois, ça crie, les antérieurs se lancent. Du coup, c'est parfois un moment un peu stressant pour l'humain. C'est souvent, c'est souvent les juments hein, qui font ça. Voilà, alors c'est un comportement qui est utilisé pour l'aspect social et pour l'aspect sexuel aussi, avec entre les talons et la jument.
Oui, finalement, c'est un petit peu notre poignée de main à nous ou la bise.
Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que nous, on ne crie pas.
Heureusement, ça donnerait des scènes un peu spéciales.
Oui. Alors, le deuxième moyen de communication, Sophie, qu'est-ce que c'est?
Justement, en parlant de cris, je vais commencer un petit peu à vous parler des différents sons, sachant que c'est une grosse partie de la communication des chevaux. C'est pas la plus grosse, mais c'est une des grosses parties. Et c'est surtout celle qu'on reconnaît le plus, nous, et qui est omniprésente dans les films et séries. Beaucoup trop, d'ailleurs.
Ah, c'est vrai que ça m'a toujours impressionnée à chaque fois qu'il y avait un épisode, un film ou quelque chose comme ça, où il y a des chevaux, ils crient tout le temps dans les films. Et je me dis, mais pourtant, avec le temps que je passe au manège, je n'entends pas les chevaux crier à ce point-là.
Donc, par rapport au son, plus le son il va être grave, plus on va être sur du plaisir, sur quelque chose de calme et de réconfortant pour les chevaux. À l'inverse, plus on va avoir des sons aigus, ça va vraiment servir à donner l'alerte, c'est quelque chose de stressant. Faut bien garder ça en tête quand on met de la musique dans les écuries avec nos chevaux, par exemple, entre le son aigu et le son grave, que vraiment ça n'a pas la même signification pour eux que pour nous. On va pouvoir reconnaître 7 différents types de sons chez les chevaux. Il y en a certains où ils vont utiliser les cordes vocales et d'autres non. Ce qui n'est pas notre cas où on utilise quasiment tout le temps nos cordes vocales en parenthèse, à part quand on éternue. La petite information inutile, mais au moins vous l'avez. Le premier son, ça va être l'appel le plus doux, le son le moins fort, qui est juste un soupir. Le soupir, ça va être une sorte de petit frémissement soufflé, très très faible en intensité, qui va être émis lorsque les partenaires sont très proches, voire collés. Ça va juste être ça. Le deuxième type de son, qui est légèrement plus fort, c'est l'appel de contact. C'est un frémissement sourd et modulé qui va être bouche fermée, naseaux largement dilatés et les naseaux vont un petit peu vrombir finalement, ils vont légèrement bouger. On l'entend souvent chez les chevaux domestiques quand ils voient leur soigneur ou la nourriture aussi, enfin ça va avec. Et c'est l'appel qui est émis aussi par la jument pour son poulain, quand il n'est pas trop loin pour rappeler son poulain. Et aussi de l'étalon vis-à-vis de la jument en chaleur cette fois-ci. Qu'on est quand même sur un rapport pas mal sexuel. C'est vraiment un message pour un destinataire à courte distance. On est limite en train de parler de la poste.
C'est le son qu'on entend au début du podcast, hein, sur le jingle du
C'est
podcast.
le son que nous avons à la fin du jingle. Donc à la limite, revenez au début de l'épisode, écoutez le jingle et vous entendrez que derrière, il y a ce petit son d'appel de contact parce que nous, on aime bien vous appeler au contact.
Voilà.
Ensuite, nous avons le vrai hennissement, donc celui qu'on entend dans les films, dans les séries, partout, celui qu'on entend partout, donc le seul et le unique hennissement que finalement ils ne font pas si souvent que ça, qui va être un cri qui est produit bouche ouverte et qui porte vraiment loin. Il va correspondre généralement à une situation de séparation. Dans la nature, c'est un signal de détresse quand la mère perd de vue son poulain, par exemple, ou quand un individu du groupe familial il est égaré ou qui s'est perdu par accident. Chez les chevaux domestiques, ça va être vraiment, par exemple, quand on part en promenade avec l'un, il y a l'autre qui va appeler. Le hennissement, il va généralement s'accompagner d'une réponse quand ils sont à portée de voix. Et quand il y a une réponse, généralement, ils vont hennir plusieurs fois d'affilée pour être sûr que le copain est pas très loin. C'est vraiment la grosse situation chez nous de quand on part promener et qu'on a le cheval qui hennit sous la selle et ça fait des fois un peu peur aux cavaliers d'ailleurs.
Oui, et alors chaque cheval a sa propre voix, hein, donc le hennissement est différent d'un cheval à l'autre, et puis on les reconnaît aussi. C'est assez rigolo quand on les entend hennir, on sait qui a henni. C'est assez comique. Je vais continuer. Le prochain son, c'est le couinement de colère. Donc ça, c'est vraiment typiquement la jument qu'on approche d'un peu trop près, qui n'a pas envie qu'on approche. Donc ça, celui-là, il se fait bouche fermée, les commissures des lèvres se retroussent sur la bouche et la bouche finit par s'ouvrir. C'est vraiment aigu et bref. C'est essentiellement lié au combat, à la défense ou à la menace. Après, on a l'ébrouement. C'est une sorte d'éternuement. La fonction première, c'est de dégager les naseaux. L'ébrouement survient aussi dans certains contextes qui traduit un changement d'état. Donc par exemple, quand le cheval est resté à l'arrêt longtemps et qu'on le remet en mouvement, alors là, à ce moment-là, il s'ébroue. Puis on a le grondement. C'est une sorte de ronflement qui est dû à la vibration des naseaux. Et là, le son, il porte assez loin. Par exemple, quand vous avez un cheval qui est effrayé, mais qui est curieux en même temps, il veut aller voir près d'une chose qui lui fait peur. Et là, il va s'approcher et il va vraiment comme gronder ou ronfler un peu. Et c'est ce bruit-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est ce bruit-là. Et puis, alors, le dernier, c'est le souffle. C'est vraiment typiquement quand le cheval fait le dragon. Hein. Il est redressé, la tête en l'air, souvent la queue en l'air, et il souffle vraiment très très fort. Ça, c'est vraiment pour signaler un grand danger aux autres chevaux. C'est vraiment un signal d'alarme.
Et puis d'ailleurs, on peut dire souvent, quand on a des chevaux qui ont peur justement par rapport au grondement juste avant, le coin fantôme de la carrière par exemple, où on a le cheval qui va se figer, qui va d'abord gronder super fort et ensuite il va y avoir ce souffle qui sort d'un coup et après ça va pas vraiment mieux parce qu'ils sont hyper tendus et on sait pas trop comment sortir de cette situation. Généralement, on est assez tendu nous aussi sur notre cheval à se dire oh, est-ce qu'il va partir d'un coup? Qu'est-ce qui va se passer?
Ah oui, quand ils font ça quand on est à cheval, là, c'est ça, oui, non, moi, j'aime pas du tout. Quand on est à pied, qu'ils sont en liberté, c'est rigolo de voir faire ça, je trouve.
Ils sont beaux.
C'est impressionnant, ils sont beaux, ils sont super beaux quand ils font ça. Mais c'est important de savoir pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. C'est leur moyen de communication, donc c'est bien de le connaître.
Complètement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cheval, c'est un animal très visuel dans ses rapports sociaux. C'est d'ailleurs son moyen de communication principal, finalement, qu'il va le plus utiliser au quotidien. On parle ici de sa capacité de s'exprimer avec tout son corps ou juste une partie, comme sa tête, son encolure, ses oreilles, ses yeux, juste sa queue, etc., etc. Vraiment toutes les parties de son corps. On a plusieurs types de comportements qu'on peut observer. On va avoir la posture d'alerte, qui généralement a la même posture que prend le cheval quand il va faire le souffle et le ronflement. Donc on a une tête très haute, c'est pour un danger qui est au loin, c'est de la surveillance. Tête très haute, le cheval est rigide, il est figé, il va plus bouger d'un pouce, ou bien il va rebouger soit pour se détendre parce que finalement le danger est écarté et c'est pas ça, soit il va bouger pour fuir. Et là, c'est un petit peu plus dangereux si on est avec le cheval. On a également tout ce qui est les comportements de menace, donc avec les mouvements des oreilles, les oreilles qui vont aller se plaquer, le regard, on va voir la bouche, on va voir la queue. Et ceux-ci vont toujours entraîner une réponse chez l'autre cheval à qui est destiné le message finalement. Et le cheval va adopter un comportement d'évitement par lequel il va pouvoir marquer sa soumission. qui est aussi une réponse visuelle finalement. On peut également observer quand il y a deux entiers qui se rencontrent, qui vont faire un petit peu les beaux gosses, comme on pourrait dire. Ils vont se grandir, ils vont piaffer, ils vont passager, ils vont rouler les yeux pour faire apparaître le blanc de l'œil. Ils vont vraiment faire les beaux et faire une petite danse finalement entre eux. Ça, on va pouvoir observer quand vraiment c'est deux entiers qui se rencontrent. C'est très joli à voir d'ailleurs à travers la clôture souvent quand... Justement, il y a deux entiers comme ça, l'un à côté de l'autre, où ils vont se pavaner l'un en face de l'autre. C'est très joli.
Ouais, mon cheval, il est pas étalon, mais il fait ça encore de temps en temps. Hein. Il fait le beau comme ça, il se redresse la queue en panache, il se met à piaffer, passager et tout. Il est beau comme tout.
Comme quoi, ils savent très bien faire les mouvements de dressage tout seuls.
Oui, plus facilement qu'avec cavalier sur le dos.
On va aussi pouvoir observer des attitudes de soumission, donc on va voir un corps ramassé, ils vont se faire le plus petit possible, la queue qui va se rentrer légèrement, vraiment un cheval qui se fait tout petit. On va voir les juments en chaleur, qui sont assez faciles à reconnaître, les postures campées, queue déportée, on a également les juments qui vont faire pipi, et qui vont toujours avoir cette attitude, oui, très campée, pour montrer qu'elles sont en chaleur, et souvent devant un entier. Ou devant des ongres, parce qu'elles font pas toujours la différence, et on a des ongres qui comprennent pas trop ce qui se passe, mais c'est assez comique à regarder. On a également tout ce qui est mouvement du bout du nez, des naseaux, des lèvres, les commissures également, qui vont être des signaux hyper significatifs entre eux pour le cheval qui va recevoir ces signaux-là, mais que nous, on va pas forcément voir, sauf si on est vraiment attentif au cheval, et là, on va pouvoir voir toutes ces micro-expressions qui sont hyper riches. Par rapport aux oreilles, elles vont vraiment pouvoir bouger indépendamment l'une de l'autre, et c'est un comportement et un mouvement qui est complètement involontaire. On ne peut absolument pas conditionner le mouvement des oreilles et apprendre au cheval à bouger les oreilles comme on voudrait. C'est juste pas possible. Ça va être des mouvements involontaires, un petit peu comme nous si on voulait contrôler le battement de nos cœurs. On ne peut pas contrôler le battement d'un cœur. Il le fait tout seul, involontairement. Il faut vraiment qu'on soit capable d'observer nos chevaux dans toutes ces postures et dans tous ces petits signaux, parce que ça va nous permettre d'analyser son état émotionnel et psychologique à un instant T. Quand on observe un cheval dans un groupe, on va pouvoir vraiment voir pendant les déplacements, s'il est dominant, il va vraiment aller en ligne droite, les autres vont s'écarter, et s'il est dominé, il va faire tout plein de détours pour éviter les dominants. Et ça, pareil, ça va être tous des micro-signes qui vont se communiquer. Les dominants, ils vont juste avoir à baisser un petit peu la tête, baisser les oreilles, légèrement froncer les naseaux si nécessaire, et hop, ils vont traverser. Alors que les dominants, ils vont se faire un peu petits et faire le tour très gentiment et s'éloigner rapidement s'il y a un dominant au milieu qui lui dit « bon, laisse-moi plus d'espace ». Justement, en parlant d'espace personnel...
Oui, mais justement, c'est ça, quand il y a un dominant qui arrive et alors que les autres s'écartent, c'est vraiment une question d'espace personnel. Qu'est-ce que c'est l'espace personnel ? Expliquer comme ça, c'est vraiment difficile. C'est un peu le charisme, en fait, d'une personne ou d'un animal. Ben, pour vous expliquer l'espace personnel, je vais vous donner l'exemple. Si vous vous mettez avec un autre humain dos à dos, il n'y a pas de souci, on peut rester comme ça. Maintenant, de côte à côte, si on se connaît un peu, on sait se rapprocher. Si on ne se connaît pas, être collé, c'est compliqué. Par contre, si on se met face à face, il faut qu'on se connaisse vraiment bien pour pouvoir être proche. Et ça, c'est vraiment l'espace personnel. Par exemple, moi, je sais bien que il faut pas qu'on m'approche de trop. Hein. Mon espace personnel, il est fort protégé. On peut pas trop y rentrer.
Si ça peut te rassurer, le mien aussi est très grand.
Voilà. Ça, vous pouvez tester, hein, chacun, en disant, ben là, quelle est la distance à laquelle j'accepte que quelqu'un que je ne connais pas se rapproche de moi.
Enfin, même pas, j'accepte, mais je suis confortable avec cette personne. Parce qu'accepter, oui. Des fois, on accepte plus loin que notre zone de confort, mais être confortable, des fois, elle est beaucoup plus grande, la zone.
Exactement, exactement. Oui, c'est vraiment, vous pouvez vous entraîner, hein, c'est assez intéressant. Eh bien, les chevaux, ils ont aussi cet espace personnel qui s'installe à l'adolescence. Hein, tant qu'ils sont poulains, ils n'ont pas d'espace personnel, ils sont collés les uns aux autres. Et avec, à partir de l'adolescence, ça se met en place. Et c'est vraiment ça qui fait que le cheval va faire bouger les autres, entre guillemets, ou pas. Donc voilà, et c'est vraiment le charisme en fait. Il y a des chevaux qui ont beaucoup plus de charisme que d'autres, un peu comme les humains. Et quand on travaille, on utilise l'espace personnel, hein, quand on travaille à pied. C'est vraiment, on n'autorise pas le cheval à venir dans notre espace personnel, par contre nous, on rentre dans son espace personnel. Évidemment, quand on fait ça, on ne le fait pas de manière brutale, évidemment, on prévient et on y va petit à petit. Les chevaux, ils utilisent aussi l'espace personnel pour se protéger. Donc en fait, ils se mettent les uns à côté des autres et c'est vraiment tout leur espace personnel qui va permettre de bloquer l'arrivée d'un prédateur finalement, hein. Donc pour eux, c'est aussi fort important. Ils utilisent ça pour leur communication entre eux et avec les autres. Mais voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à la communication. Ce qu'on peut vous donner comme conseil aussi, c'est vraiment de passer du temps à observer les chevaux. Vraiment, vous vous mettez un jour, vous prenez 1 heure devant vous, vous vous mettez à l'entrée du pré. Et vous les observez, vous les regardez, vous voyez un peu comment la queue elle bouge, comment elles sont physiques, l'état de ses muscles, est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est détendu, les oreilles, les naseaux, la bouche. Mais vraiment prenez le temps de les observer. Même quand vous les travaillez à pied, vraiment prenez le temps de les observer et vous allez voir en fait, ils racontent plein, plein, plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant.
C'est hyper intéressant et ça vous permettra vraiment de mieux comprendre votre cheval, mieux savoir dans quel état il est à ce moment-là, mieux différencier ses différents états psychologiques aussi. Et donc, avant de monter dessus, de commencer toujours un petit peu à pied et de voir dans quel état il est et de pouvoir vous faire votre petit bilan et vous dire, ok, bon, aujourd'hui, je le sens un peu fatigué, aujourd'hui, je le sens pas très réceptif, je le sens stressé, je le vois, voilà. Vous pouvez vraiment vous faire votre petit bilan en début de séance. Ça me semble hyper important et ça vous apportera énormément et ça vous permettra d'adapter surtout votre séance de travail avec lui.
Tout à fait. Et alors aussi, on peut rajouter une petite chose, c'est que Hélène Roche, elle a écrit un livre qui s'appelle Apprendre à observer les chevaux. Et là, c'est vraiment un guide qui va vous apprendre à vraiment les observer, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez regarder. Et voilà, il y a tous des petits tests à faire aussi. C'est vraiment très intéressant, je vous le conseille.
Tu en perds ta voix.
J'en perds ma voix. Pour le sujet de la communication, j'en perds ma voix. C'est intéressant. Et donc, le prochain épisode du podcast, qu'est-ce que c'est?
Le prochain épisode, ce sera comment préparer mon cheval au maréchal ou au parage. Ce sera de nouveau un petit épisode pratique sur comment aider votre cheval avec le maréchal ferrant ou le pareur, le podologue, peu importe qui vient chez vous s'occuper ou bien de vous-même, mais au moins vous serez préparé.
Oui, c'est vraiment bien de les préparer à ça, mais on vous expliquera tout ça au prochain épisode. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram et toutes les plateformes de podcast. Hein, donc voilà. N'hésitez pas, nous on sera très contents de vous lire et on vous répondra avec plaisir.
À dans 2 semaines!
À dans 2 semaines!